Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue dans Une Heure en Série. Une Heure en Série en 55 minutes chrono pour débattre de l'actualité des séries télé. Et grâce à la vie affûtée, mordant parfois, mais toujours argumenté, à défaut d'être impartial, de nos chroniqueuses et de notre chroniqueur, tenter de vous recommander le meilleur de la série. Une Heure en Série, c'est épisode 8 de cette troisième saison, au cours duquel nous parlerons mineurs en grève et début du syndicalisme avec Germinal sur France 2, éradication de l'homme et survie au féminin avec Y, le dernier homme sur Disney+, et enfin infiltration à haut risque et identité trouble avec l'imposture sur Canal.
Une heure en série, Xavier Le Herpeur.
Et avec nous ce soir, Isabelle Danel de Bandapart.fr. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Xavier, bonsoir tout le monde.
Vous avez un petit sourire tout à fait délicieux ce soir. Je sens que vous fomentez vos arguments. Ariane Allard de Cosette et de Positif, tout aussi souriante. Bonsoir Ariane.
Bonsoir Xavier, bonsoir Benoît, bonsoir Isabelle.
Et Benoît Lagane, que vous entendez bien sûr le 5 dans le 5-7 le vendredi matin de Mathilde Munoz, et que vous pouvez voir, car c'est un joli garçon aussi à contempler à la télévision, dans Télématin.
Bonsoir à toutes et à tous.
Pardon de casser un peu l'ambiance, mais on vient d'apprendre le décès d'un grand homme de la télévision française, Marcel Bluval. Et je vais me permettre de tendre le micro à Isabelle Danel, puisque Isabelle, vous le connaissiez et que vous aviez écrit un livre avec lui, Mon histoire de la télévision, qui est édité au Cahier de l'Info, c'est ça?
Marcel Bluval, pionnier de la télévision. Écoutez, c'est extrêmement triste parce que c'était un monument et c'était aussi un grand homme tout court, mais c'était un homme de télévision, de cinéma, de théâtre, d'opéra. Il a eu 10 vies. Et évidemment, pour la télévision, c'est Vidocq. La série en noir et blanc avec Bernard Noël, les nouvelles aventures de Vidocq avec Claude Brasseur et Danielle Lebrun, grande comédienne et compagne de Marcel Bluval. C'est aussi toute l'origine de l'ORTF, c'est-à-dire qu'il a fait les dramatiques en direct, il a fait des séries en direct. Il a évidemment terminé sa carrière sur des mini-séries, notamment sur À droite toute, qui était vraiment très très intéressant, sur la montée de la droite et de la cagoule. Enfin, il a fait énormément de choses qui comptent beaucoup pour la télévision et qui comptent beaucoup, en tout cas pour moi personnellement. Et voilà, je voulais dire quelque chose.
Et vous l'avez très bien dit, moi je garderai le souvenir d'un Don Juan absolument extraordinaire en noir et blanc pour la télévision.
La plus grande adaptation de Don Juan, c'est Marcel Bluval qui l'a faite.
Et moi, je me souviendrai toujours de quelqu'un qui avait compris très tôt. Il avait une grande culture américaine, donc il savait comment fabriquer de l'image. Et ces séries, si elles marchent encore comme Vidocq, si on peut les revoir encore aujourd'hui, elles sont extrêmement modernes. C'est qu'en fait, il avait déjà compris la grammaire, en fait, de ces séries qu'on aime tant.
Voilà. Donc, merci à Marcel Bluval pour tout ce qu'il a apporté à la télévision française. C'est la série événement du service public de cette rentrée, soit l'adaptation d'un des plus grands livres du patrimoine hexagonal, un roman engagé et dénonciateur des conditions sociales de la fin du 19e siècle, une plongée dans tous les sens du terme, dans les profondeurs des bassins miniers du nord de la France, pour une peinture à la fois réaliste et romanesque du quotidien de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants qui s'épuisèrent et se tuèrent littéralement à la tâche pour satisfaire les appétits capitaliste de quelques riches notables de l'époque. Germinal, vous l'avez compris, bien évidemment, une série en 6 épisodes diffusée sur France 2 à partir du 27 octobre, adaptée du roman éponyme d'Émile Zola, et également disponible dans son intégralité sur Salto. Plantons le décor, les corons, les mines, les puits sans fond, le grisou, les explosions meurtrières. Tout commence d'ailleurs avec la mort d'une jeune femme. Et travaillait au fond des galeries, ses collègues et amis ont à peine le temps de ravaler leurs larmes qu'il leur faut déjà redescendre pour bosser pour un salaire que les propriétaires de la mine ne cessent de revoir à la baisse, allant même jusqu'à mettre aux enchères pour des prix dégressifs le tarif d'exploitation de certains secteurs de la mine. La scène est assez saisissante. C'est dans ce contexte d'esclavagisme que débarque le jeune Étienne Lantier, homme sensible aux idées socialistes qui fleurissent un peu partout en Europe, un libre penseur qui va tenter d'insuffler un vent de révolte légitime et syndicaliser les ouvriers que les patrons essaient déjà de monter les uns contre les autres, tentant de briser tout réflexe de solidarité. Il est permis de se demander si tout cela a vraiment changé.
Comme vous pouvez le voir, j'ai baissé les coûts d'exploitation. Du coup, malgré la crise, nous avons atteint les objectifs fixés.
À partir du mois prochain, chaque berline sera payée 2 centimes de moins.
Camarades, vos revendications sont justes. Et la justice ne se demande pas, elle s'impose.
Les mineurs sont en route, des centaines de toute la région.
Seul un idiot quitte la partie avant d'encaisser ses gains.
T'as dit que c'était la guerre, tu te rappelles? La voilà la guerre, la voilà.
La seule solution pour que les patrons nous respectent, c'est l'union des mineurs. Alors maintenant, vous avez le choix. Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes avec les patrons. Mais il n'y a pas d'entre-deux.
Germinal, une série écrite par Julien Lilti, scénariste entre autres sur la série Hippocrate, ainsi qu'au cinéma sur le remarquable film d'animation Adama. Une série réalisée par David Auret, qui a travaillé sur la série Scam et qui est interprétée par Thierry Godard, Guillaume de Tonquédec. Est-ce qu'il y a une série sans Guillaume de Tonquédec actuellement? Je me pose la question. Louis Pérez, Alix Poisson, Natacha Lidinger et Samy Bouajila. À côté de la presse, Le Point parle d'un travail de titan en résultat convaincant, pardon. Première parle d'une réussite belle et puissante. Pour Télérama, en revanche, c'est une déception inégale et trop lisse. La fresque révolutionnaire manque de souffle. Avant de vous céder la parole, je vous signale la sortie d'un très beau livre de Véronique Chalmet intitulé Germinal, du roman à la série, et qui est paru aux éditions Grune et qui donc recense à la fois tous les détails du tournage, mais également toute la réalité historique de ce dont sont inspirés les auteurs pour justement donner une étoffe encore plus réaliste à la série. Je sais, Benoît, que vous aimez beaucoup, oui, ce Germinal.
Oui, pour moi, c'est vraiment, ça a vraiment été la claque. J'ai ressenti, en regardant Germinal, ce que j'ai pu ressentir quand j'allais au cinéma voir des films de Ken Loach. C'est-à-dire que j'avais les poils qui se hérissaient, plus ça avançait. Et vraiment, je trouve que c'est rare, en fait, à la télévision française, des séries qui nous poussent à la révolte. C'est-à-dire que ça commence vraiment par, vous l'avez très bien résumé, par ce qui se passe dans cette série.
Je vous remercie.
Et tout doucement, ça monte. Le danger aurait été de nous révolter immédiatement. Sauf qu'en fait, ils nous mettent vraiment dans la position de ces personnes qui essaient d'avancer dans ce métier difficile. Et plus on avance d'épisode en épisode, plus la révolte monte, avec vraiment un crescendo au point que quand arrive le cinquième épisode, il y a vraiment une fin de cinquième épisode saisissante qui nous permet de rentrer dans le dernier épisode en étant vraiment prêt à sortir dans la rue. Et avec un choix de casting étonnant, Louis Pérez en Étienne Lantier, c'est la très bonne idée, on le connaît parce qu'on l'a vu dans Mental, mais sinon on le connaît pas, et du coup on peut se projeter complètement.
Choisissez, on le connaît ou on
non,
le connaît
pas. Non, mais on le connaît si on aime les séries et si on a vu Mental, mais en fait le grand public ne le connaît pas.
C'est vrai.
Et pour France 2 à 21h un mercredi soir, les gens vont vraiment le découvrir, et c'est vraiment un jeu fort, et de l'avoir associé à un autre casting, Guillaume de Tonquédec, qu'on voit partout, mais qui, dans le sixième épisode, va avoir tout un discours où on a vraiment l'impression d'entendre nos politiques d'aujourd'hui en train de parler aux mineurs. Il est parfait, sans parler de Thierry Godard, tout en retenue, qui dit peu, mais qui montre beaucoup dans son visage, et Alix Poisson, bon, qui est toujours formidable. Donc vraiment, une grande série qu'il faut voir du début jusqu'à la fin, parce que au début, ça prend doucement, mais ça finit par être, à la fin, une explosion politique très forte.
Ariane Allard, est-ce que vous partagez cet enthousiasme débordant?
C'est difficile d'avoir
ça toujours donne envie,
l'enthousiasme
en plus, hein.
de Benoît. J'ai trouvé ça plutôt intéressant. Moi, j'étais assez rétive au départ. Mais oui, parce que c'est un roman. Enfin bon, voilà, moi, Zola, 13-14 ans, j'ai lu toute la saga des Rugomaka. Et j'étais un peu inquiète. Il y a eu aussi plusieurs adaptations au cinéma, qui étaient un peu académiques. La dernière, celle de Claude Berry. Et je l'ai trouvé intéressante au départ pour deux choses. Enfin, la première chose, c'est que j'aime bien parce qu'on prend le temps de rentrer dans la vie des mineurs. Je trouve qu'il y a une espèce d'économie à la fois dans le jeu des acteurs, dans les dialogues. Et ça me plaît assez. Ce filmage est assez minimaliste. Il y a les acteurs. Moi, Alix Poisson, je le dis une fois pour toutes, je pense que c'est une des meilleures actrices françaises actuellement qu'on peut voir dans les séries, quelles qu'elles soient, celle de Xavier de l'Estrade ou celle-là. Là, on a l'impression qu'elle est brûlée de l'intérieur. Elle a un corps assez frêle. Or, elle joue un personnage qui est censé être une femme solide, costaude, qui porte sa famille, qui porte aussi la colère de ses mineurs. Je la trouve exceptionnelle vraiment dans ce rôle. J'ai une réserve, c'est l'utilisation de la musique, encore une fois, je trouve que cette musique souligne, surligne, explique et au bout d'un moment contraint le spectateur, et surtout elle est omniprésente, cette musique.
On peut dire qu'elle est un peu anachronique par rapport à l'époque.
Et en plus elle est lyrique, voilà, elle est je trouve, je la trouve
un peu rock de temps en temps.
Oui, mais je la trouve emphatique, et puis surtout c'est un paradoxe parce que ça va à l'encontre justement des choix en termes de mise en scène qui étaient beaucoup plus respectueux et des situations et des personnages, et là ça contraint le spectateur à de toute façon à aller vers ce qu'on veut absolument nous faire entendre. Et cet enthousiasme un peu délirant de Benoît, je trouve que ça, la musique est comme ça aussi. Moi, je la trouve trop, trop, trop présente et trop surlignante.
C'est pas faux. Isabelle Danel,
ouais, je voudrais bien trancher. Je voudrais bien être Benoît Lagan, moi, parce que au moins j'aurais l'enthousiasme et tout ça. Je salue la volonté de faire ça aujourd'hui et les moyens qui ont été mis, et c'est le service public, et je trouve ça formidable. Après, moi, j'ai pas été du tout emballée par le résultat. Je trouve ça très académique pour le coup. Je trouve qu'on rentre pas tant que ça dans les personnages. J'ai plein de bémols sur les acteurs, mais je voudrais pas contrecarrer ce qui a été dit, parce qu'il y avait de l'enthousiasme dans ce qui a été dit. Et c'est vrai que je suis un peu restée sur ma faim. Il y a une volonté affichée que je trouve plutôt bien de vouloir remonter les personnages féminins qui sont beaucoup plus présents et qui ont des choses importantes beaucoup plus que dans le roman de Zola. Ça, pourquoi pas? Mais du coup, il y a des trahisons que je trouve un peu compliquées. Alors bon, c'est un roman absolument pléthorique, c'est énorme, et d'ailleurs la forme sérielle lui convient très très bien. Là-dessus, je suis d'accord. Je trouve que c'est une très bonne idée d'en faire une série, mais je trouve ça quand même un tout petit peu étriqué, malheureusement, et ça me fait peine de dire ça, parce que encore une fois, l'ambition, je la souligne et je la vois, et je trouve que c'est très important qu'aujourd'hui on fasse ces choses-là. Et on vient de parler de Marcel Bluval, et la télévision française avait cette politique-là à une époque, de faire des grandes sagas, etc. Donc je suis très contente que ça existe. J'aurais aimé beaucoup plus que ce que je n'aime, quoi.
Oui, je vois quand même qu'il y a une déception. Juste avant d'en terminer avec ce débat, ça s'adresse à qui? À ceux qui connaissent le roman, à ceux qui ne le connaissent pas. Voilà, quelle est un peu la cible souhaitée, l'ambition?
C'est ça qui m'embête, c'est que je pense que ça va pas plus intéresser les jeunes que n'intéresserait aujourd'hui de lire Zola. Je pense que c'est une série pour des gens qui connaissent le livre, qui sont des quinquagénaires, des sexagénaires, et du coup, je me demande si ça rate pas un tout petit peu sa cible aussi.
Ariane Andemo.
Moi, je suis pas sûre. Enfin, des arguments d'Isabelle que je partage, mais je pense que au niveau de la réception du public, il y a quand même une relecture, une modernisation. Alors on aime ou pas, on peut penser que c'est un peu du politiquement correct aussi, mais il y a des résonances avec les conflits, les écarts sociaux d'aujourd'hui, et ben voilà, les gilets jaunes. Enfin, on ne peut pas ne pas y penser quand on regarde cette série. Et ça peut être un angle, un biais pour que les jeunes ou les moins jeunes puissent être intéressés par cette histoire et par cette lutte.
Oui. Benoît, le mot de la fin, ouais, comme d'habitude avec vous.
Une anecdote, j'ai vu le premier épisode devant des classes de quatrième, et à la fin du premier épisode, ils ont vu que le premier épisode, à la question « Est-ce que vous avez envie de voir la suite ?», il y a eu un oui, mais très enthousiaste. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une envie, et on les a vus, il suffisait de les voir pendant la projection, ils étaient vraiment à fond, donc je pense que ça va marcher auprès des jeunes.
Ce sera la conclusion. Découvrez Germinal, vérifiez votre engouement pour ce grand roman de Zola et pour votre fibre socialiste. C'est sur France 2 à partir du 27 octobre.
Le compte à rebours a commencé. Le monde est comme un sablier. Sur le point de se retourner. Est-ce qu'on retombera sur nos pieds? Du puits où il est enfermé, quelqu'un dit rendez-nous la beauté. Avec lui, on guette la lumière, la douce passerelle de l'enfer. Regarde cet enfant sans mémoire, devant lui se tient un miroir, son reflet de bain. Tu ne sais plus dire si tu dors. Ta vie est devenue un décor que tu laisses comme on offre son corps pour quelques billets et encore. Mais c'est toi qui portes le drapeau. Regarde-le comme il est beau. Là, tout en tête du cortège. Qui se soulève. Tu portes pour lui la mémoire du temps où les oiseaux chantaient le soir. Relève-toi, c'est la tempête. La 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 la. La. regardera passer à peine le temps d'un baiser. Elle parle, il faut juste se pencher, percer l'asphalte, le béton armé et renverser la pyramide et mettre la base en premier. C'est la pyramide à mettre la base en premier.
Renversé par Émilie Loiseau, un titre extrait de son dernier album, Icar, album sorti le 17 septembre. Icar comme une invitation à s'affranchir de la pesanteur, sans peur cette fois de se brûler les ailes. Invocation qui traverse la chanson Renversé, appel engagé et militant à cette nouvelle génération qui pourrait être celle du salut de notre monde et de ses belles valeurs de solidarité et d'engagement humaniste. Un titre lucide, sombre sans doute, mais porté par l'optimisme de sa mélodie cristalline et coécrit avec Sébastien Bureau, son copain dans la vie et sur scène.
France Inter. Une heure en série.
L'heure d'un conseil littéraire et le hasard fait bien des choses puisque je vais vous parler de la sortie aux éditions de l'Aube du Ventre des hommes de Samira El Hayashi. Tout commence en 2006 lorsqu'une femme, la narratrice et sans doute l'autrice, est convoquée au commissariat. Le ton menaçant des policiers semble indiquer qu'un événement grave lui est reproché, mais il faudra le temps de ce roman claquant et rageur pour nous révéler ce qu'il s'est passé. Il faudra d'ailleurs le même temps d'exécution pour apprendre ce qu'un soir, le père de cette femme déclara à la télévision française. Lui, un ouvrier marocain ayant à peine le temps d'apprendre notre langue, travaillant au rythme épuisant des 3-8 dans une mine du nord de la France, sans toutefois avoir le droit au titre et donc au salaire de mineur, au contraire des Français, des Polonais ou encore des Algériens. Le Ventre des hommes, c'est avant tout l'histoire d'une enfance passée à l'ombre de ces terrils derrière lesquels le soleil peine à poindre, l'évocation d'une vie de famille où parents et enfants s'entassent dans un minuscule logement avant de déménager pour une plus vaste habitation où l'héroïne va enfin découvrir son droit à l'intimité et développer dans cette solitude racinérante son goût pour la littérature, ainsi que sa prime détestation pour le Germinal de Zola, roman qu'elle trouve presque trop sage en regard de la situation professionnelle endurée par son père et de ses collègues. Elle voit son père fonder un syndicat, puis elle fera l'expérience du déterminisme de classe sociale et du fait d'être sans cesse ramenée à ses origines sociales et ethniques, y compris lorsqu'elle débute de brillantes études secondaires. C'est l'éveil d'une conscience politique, y compris à travers la culpabilité de ce que l'on pourrait appeler la trahison de classe quand elle devient professeure de français. Samira El Hayashi raconte ici une histoire ouvrière contemporaine avec une acuité et une force du détail qui nous la rend concrète et réaliste. C'est bien plus qu'un témoignage personnel, c'est avant tout une magnifique réhabilitation de l'honneur meurtri du prolétariat. Le Ventre des hommes de Samira El Hayashi aux éditions de l'Aube. Dans un futur proche qui a vu tous les porteurs du chromosome Y, soit l'intégralité de la population masculine, décimés en une fraction de seconde, les femmes tentent de reconstruire l'humanité et d'éviter à celle-ci de sombrer dans un chaos irréversible. Y, le dernier homme, The Last Man en anglais, est une dystopie de 10 épisodes disponible sur la plateforme Disney+. Ils se sont littéralement effondrés sur place dans un ultime souffle. Qu'ils soient présidents, simple père de famille, connus ou anonymes, ils n'ont pu échapper au sort funeste que leur a réservé le fait de porter le chromosome Y. Ironie du sort, macabre, pour tous ces hommes qui se croyaient justement au sommet de la pyramide humaine grâce à cette simple distinction génétique. Désormais, les femmes ont la lourde responsabilité de rebâtir un monde qui les a si souvent rabaissés ou même ignorés. Une lutte pour la survie de chaque instant, menée par une femme désormais à la tête des États-Unis, une agente des services secrets, une ambulancière et d'autres femmes qui essaient d'empêcher le monde de céder aux pires instincts survivalistes. Tout espoir semble perdu lorsqu'un homme est enfin retrouvé. Un adolescent immature, fils à papa, ou plus exactement dans le cas présent, fils à maman, sur les épaules duquel, épaules nullement bâties pour une telle responsabilité, repose désormais la survie de notre espèce.
Monsieur le Président, votre...
Ça va aller.
Debout, allez.
Madame la Présidente, les centrales nucléaires vont commencer à s'arrêter.
Pour quelle ville exactement ?
Toutes les villes, madame.
Quelqu'un quelque part doit bien savoir comment ça a pu se produire et comment réparer les dégâts. T'es qui, toi ?
Yorick.
Qui nous intéresse, c'est un reproducteur.
Waouh.
Ok.
Les gens vont devoir choisir leur camp.
Elles ont faim. Elles sont en colère. Elles sont terrifiées. Ensemble, nous reconstruirons le monde.
Y, le dernier homme, une série créée d'après le comique éponyme de Brian Cogan et Pia Guerra, produite par Elisa Clark, productrice sur les premières saisons de l'excellente série Animal Kingdom. C'est sur Prime et c'est absolument formidable. Dans les rôles principaux de Y, le dernier homme, Diane Lane, qu'on est ravis de revoir, Ashley Romance, Olivia Thirlby et Ben Schneider dans le rôle de ce fameux dernier homme. Côté de la presse, pour Hollywood Reporter, la série est convaincante la plupart du temps, mais rarement aussi divertissante qu'elle devrait l'être. Une série apocalyptique divertissante, il y en a qui aiment rire. Hein. Variety plus sévère juge que la série se prend beaucoup trop au sérieux pour laisser naître en nous d'autres émotions que le désespoir et le chagrin. J'ai cru entendre effectivement une adhésion à cette opinion. Donc, cher Ariane Allard, puisque vous voulez la parole, vous savez quoi ? En vue du résumé de cette série, je suis obligée de vous la laisser.
Merci beaucoup. Je vais commencer par un jeu de mots pourris, ça va vous faire plaisir. J'en pense plutôt.
Je n'en fais jamais.
Je dirais que je pense plutôt du mal que du bien de cette série. Donc mal, évidemment, avec un accent circonflexe sur le A.
On valide.
Voilà. Et c'est dommage, parce que évidemment, l'idée de base est intrigante, même si elle n'est pas aussi originale que ça. Puisque, enfin, moi, j'ai le souvenir d'avoir lu adolescente un roman de Robert Merle, qui s'appelait Les hommes protégés et qui parlait exactement de la même chose, c'est-à-dire l'éradication des hommes par un virus et l'instauration d'un matriarcat. Donc voilà, mais cela dit, ça fait envie, hein, en tout cas.
Mais ça ne fait que envie.
Ça ne fait que envie parce que je trouve que le récit assez vite plie sous le poids de ses ambitions. Je trouve que le récit est trop bavard, je le trouve trop sombre et je le trouve trop sérieux, donc comme le disent nos confrères de Variety. Et d'ailleurs, dès le premier épisode, je trouve que la mise en place des personnages est assez laborieuse, trop inutilement compliquée, je dirais. Les enjeux aussi du récit, moi, ne m'ont pas paru très très clairs. Qu'est-ce qu'ils veulent nous raconter exactement ? Est-ce qu'ils veulent nous raconter, je ne sais pas, moi, une fable inversée sur le patriarcat ? Dans ce cas, oui, j'adhère, j'ai envie de voir ce que ça donne. Est-ce qu'ils veulent nous raconter une réflexion sur l'emploi prise familiale, parce que ça parle beaucoup de ça, c'est quand même beaucoup allô maman bobo quand même. Et de toutes parts. Et est-ce qu'ils veulent nous raconter, je sais pas, un road movie antispéciste, hein, puisque c'est quand même entre un jeune homme et son singe, donc voilà, et puis il y a une agente spéciale entre les deux, oui. Donc voilà, moi j'étais un peu déçue, et en plus, pour terminer, donner la parole ensuite à mes petits camarades, je trouve que la forme est assez académique, c'est-à-dire qu'on respecte quand même bien les codes du genre du film post-apocalyptique, donc étant donné que c'est quand même une équipe essentiellement féminine, et la showrunneuse d'ailleurs est une femme, je me suis dit, elle aurait pu être un petit peu plus transgressive aussi sur la forme, sinon sur le fond.
Benoît Lagan, vous êtes minoritaire dans cette émission, on ne vous déradiquera pas pour autant bien évidemment, mais on vous donne la parole à contre-cœur.
Eh bien, moi je trouve que c'est pas si mal pour continuer sur le jeu de mots.
Alors vous n'allez pas
Je la ferai pas.
Sinon moi je prends mes clics et mes mâles. Hein.
Non, alors pour répondre à Ariane justement sur la forme académique, justement moi ça m'a plu. Parce que je me suis dit justement déjà que la thématique, il y a un casting 100% féminin, alors on joue le jeu à fond et on se revoit en train de penser à des séries post-apocalyptiques où finalement on voit que des mecs qui sont avec des gros bazookas en train de se désinguer alors qu'ils sont à la moitié morts déjà, et du coup j'avais envie de les voir elles, comment elles se dépatouillaient de ça. Le côté sérieux, je suis d'accord avec ça, et c'est le petit point que j'ai trouvé un petit peu dommage dans cette série, mais qui en revanche a un vrai discours politique que j'aime bien. Moi ça m'a fait penser étrangement, je sais pas pourquoi, à la série Miss America, où dans Miss America avec Kate Blanchett on voyait déjà deux féminismes s'opposer. Et ce que j'ai trouvé intéressant, donc le féminisme à la Tea Party, en gros, hein, ce féminisme en fait qui veut que les hommes dirigent tout et parce qu'elles sont bien à la maison, hein, et puis le féminisme, le vrai féminisme, le combat, celui où les femmes prennent le devant et où on voit des femmes s'opposer sur ces thématiques-là. Et ça, c'est très bien montré, je trouve, dans la série, où on voit l'opposition de cette Amérique, on imagine l'Amérique de Trump, où toutes les femmes qui défendaient Trump se retrouvaient tout d'un coup sans les hommes. Qu'est-ce qu'elles feraient sans les hommes, ces pauvres dames, entre guillemets? Et je trouve que la série répond plutôt bien dans cet académisme, effectivement, avec, dernier bémol, je trouve, une rapidité d'exécution dans la série qui fait que, par exemple, le fameux Yorick, le dernier homme, on le découvre, je trouve, un peu... Enfin, elle le découvre un peu trop vite, moi, à mon goût. J'aurais aimé faire durer ça un petit peu plus longtemps. à la fois la série, il paraît qu'elle s'arrête au bout d'une saison, elle n'est pas renouvelée pour une saison 2, donc ouais. Heureusement qu'ils ont dit tout ce qu'ils voulaient dire, peut-être, dans
c'est
cette saison-là.
C'est un signe, à mon avis.
Isabelle Danelle, pendant que vous parliez, Benoît et Ariane, Isabelle fait des non-non de la tête, ce qui n'est pas très radiophonique, c'est pour ça que je me permets
je vais donc essayer de dire non-non verbalement, je ne suis pas du tout d'accord, ni avec l'académisme, parce que je trouve que c'est classique, mais pas tant que ça. Je trouve que ça va assez vite. Sur l'humour, je comprends pas, parce que pour moi, je trouve qu'il y a des dialogues extraordinaires. Il se dit des choses là-dedans absolument formidables. Et moi, j'ai beaucoup ri. Il y a des choses très drôles. Alors, le problème des dialogues, c'est qu'ils sont pas passés dans les sous-titres. L'ironie des dialogues n'est pas arrivée jusque dans les sous-titres qui sont catastrophiques. Et c'est très dommage, parce qu'il y a des choses extrêmement étonnante. Et je trouve que oui, Ariane, tu as raison, c'est une fable inversée sur le patriarcat. Alors c'est vrai que ça brasse beaucoup de sujets, qu'il y a tout ça. Alors allô maman bobo, je n'aurais pas dit ça, mais il y a les rapports effectivement, qu'est-ce que c'est qu'être une mère, qu'est-ce que c'est qu'être une fille, qu'est-ce que c'est que prendre le pouvoir, qu'est-ce que le pouvoir corrompt, est-ce que dès qu'on a le pouvoir entre les mains, et ben on devient d'une certaine façon un homme, parce que c'est les hommes qui avaient le pouvoir. Donc ces questions-là sont vachement intéressantes. Il y a vraiment une opposition, en plus il y a des oppositions politiques, puisque le pouvoir était chez les Républicains, et que tout d'un coup, dans la lignée, puisque... C'est comme Designated Survivor. Mmh. Dans la lignée, la personne qui est arrivée est une socialiste. Donc, tout d'un coup, tout s'inverse. Tout, y compris la politique en place aux États-Unis. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment totalement passionnant. Je trouve ça extrêmement bien joué. Je trouve que Ashley Romance, qui fait l'agent 355, est une actrice absolument exceptionnelle. Ils sont tous très, très bien. Il y a du sous-texte sur Shakespeare, il y a du sous-texte sur effectivement la génétique, la façon dont on peut être prédestiné à quelque chose, et tout ça m'intéresse vraiment diablement, quoi.
Alors, politique, féministe, académique, à vous de choisir, mais je crois qu'on vous recommande tous de regarder quand même, de découvrir Y, le dernier homme, qui est disponible sur Disney+.
He's lost madness.
It's a man's world par James Brown. Est-il besoin de le préciser? Une chanson qu'on entend d'ailleurs dans la série dont nous venons de parler. Sans doute le titre le plus célèbre du chanteur, un cri dans la nuit de la phallocratie, un cri qui rêve d'un monde débarrassé de la toxicité de la testostérone, un monde de mecs, mais qui ferait bien de se rappeler que sur les femmes, ils ne sont jamais rien. C'est une chanson qui a été écrite en 1964 sur les accords d'un précédent titre. James Brown mettra 2 ans à peaufiner sa chanson, mais pour la petite histoire, il n'a mis que 2 prises à l'immortaliser.
France Inter. Une heure en série.
L'heure de l'effet miroir de Benoît Lagan. Et ce soir, c'est un coup de gueule. Ouais, oui. Benoît, vous n'avez peur de rien. Vous revenez sur l'annulation, effectivement, d'une très bonne série. Et cela vous met en colère.
Exactement, puisque c'est cette semaine que nous avons appris que l'excellente série Mixte, la première série française de la plateforme Amazon Prime, de Prime Video, précisément, c'est comme ça qu'on dit, venait d'être annulée. Donc, un choix incompréhensible quand on voit à quel point cette série a été largement saluée par la critique, récompensée par le prix du public au Festival Cannes Série il y a quelques jours, plutôt bien suivi par le public, puisque selon une étude du CNC, dans le top 3 des séries françaises les plus regardées sur les plateformes, on trouve en 1 Lupin, en 2 10% et en 3 Mixte. Mais au-delà des chiffres, je trouve que ce que révèle cette annulation, c'est le choix frileux en réalité des décideurs de ces plateformes, qui ne sont pas des patrons de chaînes, rappelons-le, mais surtout des patrons de supermarchés de l'audiovisuel, qui ont, semble-t-il, pas grand-chose à faire de notre exception culturelle sur laquelle nous avons tant jargonné en France. Il est intéressant déjà de voir que dans les 3 cas des séries françaises les plus regardées sur ces plateformes, il y a quelque chose qui renvoie à cette idée du mieux-disant culturel, la relecture d'un classique de la littérature populaire, Lupin. La reprise d'une série de la télévision publique 10% sur les coulisses notamment du cinéma, des fleurons culturels de notre pays. Et puis Mixte, excellente série showrunnée par la scénariste Marie Roussin, réalisée par Alexandre Castagnetti et Édouard Salier et produite par En voiture Simone, qui a pour ambition de raconter les rapports masculins-féminins en partant de l'ouverture des lycées à la mixité dans les années 60.
J'ai été habitué à suivre des études dans un lycée qui n'était pas mixte. Mais je crois que la présence de jeunes filles attribuerait un nouvel élément qui serait néfaste aux études.
Entre garçons et filles, ce n'est pas possible.
T'as pas besoin d'aller au lycée pour travailler à la charcuterie.
Les 3 années qui commencent aujourd'hui vont marquer votre vie à jamais.
C'est le premier lycée auquel ça arrive.
On est dans la même classe?
Je croyais que c'était une blague.
Le lycée Voltaire accueille des filles.
Que tout le monde regarde. C'est pas qu'une impression.
Et la force de Mixte est de tendre à notre pays un véritable miroir sur notre histoire avec cette ambition de raconter 5 ans de la vie d'une jeunesse française de 1963 à 1968. Cette histoire populaire, celle d'un peuple qui ne cesse à chaque génération de regagner sa liberté, de faire avancer l'égalité dans un esprit de fraternité et qui renvoie donc à notre devise certes, mais à des concepts universels qui parlent donc au monde entier et à toutes les générations. C'est ça la force de Mixte. D'ailleurs, ma fille de 13 ans, après avoir vu la saison 1, n'attendait qu'une chose, une saison 2. Quand je lui ai annoncé la décision d'Amazon, elle était en colère.
Mais comme son père.
Effectivement, parce que quand on regarde les propositions étrangères des plateformes, de Netflix par exemple, et bien la plateforme qui est pour l'heure celle quand même qui joue le plus le jeu de la production locale, on note que si des créations ambitieuses tendent un miroir, par exemple à la Grande-Bretagne pour The Crown, ou à la Turquie avec Bir Baskadir, en ce qui concerne la France, après le non-sens Marseille et quelques séries de genre que l'on connaît partout dans le monde, comme la comédie romantique ou l'horreur, il n'y a malheureusement pas grand-chose pour l'heure qui nous regarde avec acuité. Alors, chers décideurs des plateformes, et Amazon Prime en particulier, qui traîne vraiment la patte en termes de production française, si Disney Plus est capable de nous annoncer qu'elle lance une mini-série sur Malik Oussekine, si TF1, France Télé, Canal Plus, Arte, dans les moyens de la télévision, et on dit que soi-disant les plateformes ont beaucoup plus de moyens, sont capables de nous signer des séries comme Laetitia, Germinal, Hippocrate ou encore En Thérapie, il serait temps qu'ils s'y collent. Faut-il rappeler à une série, contrairement à ce que pensent ses détracteurs, ce n'est pas qu'un produit de divertissement interchangeable et mondialisé que l'on met en avant en tête de gondole. Une grande série comme Mixte se doit d'être glocale, c'est-à-dire à la fois locale et globale. C'est le cas de toutes les grandes séries américaines et anglaises que nous aimons suivre depuis plus de 60 ans. Mixte en 2021 en France a cette force-là. Alors merci de revenir sur votre décision. Une pétition circule d'ailleurs sur le web pour la défendre. Je vous invite à la signer. La semaine dernière, déjà après le vol du capitaine Kirk by Jeff Bezos, j'en appelais à balancer nos abonnements Prime Video dans la stratosphère. Si Mixte ne revient vraiment pas, ça nous fera une nouvelle raison.
Oh, mais il est très, très, très colère. Merci beaucoup, Benoît Lagan. Allez-vous calmer, prenez un petit peu d'eau. Et voilà, comme ça, c'était votre effet miroir et que l'on pourrait écouter, bien évidemment, dans sa vitupérance en podcast. Vous êtes bien dans une heure en série sur France Inter, évidemment avec Ariane Allard, Isabelle Danel et Benoît Lagane. Une enquête sur le fil du rasoir sous le radar de la légalité pour l'évocation minutieuse et anxiogène d'un fait divers ayant suscité controverse et émoi en Grande-Bretagne il y a quelques années. L'imposture, une série britannique en 4 épisodes diffusée sur Polar Plus et programmée dans le cadre du cycle Fait réel. Et une preuve supplémentaire, s'il en était besoin, de la capacité des Anglais à réinventer par le prisme de la fiction une réalité policière dépassant la simple reconstitution pour s'interroger sur les agissements et l'éthique de ces forces de police. À la suite d'un meurtre particulièrement odieux qui vit une jeune femme poignardée à une vingtaine de reprises puis violée, la police soupçonne très vite un jeune homme d'être à l'origine de ce crime sordide. On a retrouvé chez lui une pièce où un pentagramme était dessiné au sol, ainsi que quelques bougies consumées couramment employées pour les rites sataniques. Alors, hypothèse probable ou crime sexuel. Le principal suspect est libéré, faute de preuves, pour le confondre, une jeune policière ambitieuse et talentueuse, aidée par un profiler spécialiste des crimes de sang, accepte de travailler sous couverture pour approcher le suspect et devenir ainsi une proie consentante. Mais jusqu'où ?
The brutal murder of Rachel Nicol shocked the nation.
Went out on crime watch. Half the estate rang in to name him.
We need a very special covert officer.
What would you want me to do?
This is not a trap.
Give me a reason to love
him. The rat about this man is gonna kill again.
I can crack him.
You are so close.
Hello?
Lizzie, I've been thinking about you a lot.
You must be Colin.
L'imposture Deceit, en version originale, une série créée par Niall McCornick et Emilia Di Girolamo, avec dans le rôle de la policière Nia Malgar, une comédienne irlandaise que l'on avait vue dans The Virtues, l'une des plus grandes dernières séries britanniques de ces dernières années, ainsi que Raised by Wolves, et dans le rôle du probable tueur, le jeune Sion Daniel Young, qui est assez impressionnant quand même, voire très inquiétant. Isabelle Danel.
Moi, je trouve ça assez réussi parce que c'est le portrait d'une femme au travail et c'est des choses qu'on voit pas extrêmement souvent. Donc, elle s'appelle Sadie Byrne. Elle a plusieurs noms, mais dans la vraie vie, elle s'appelle Sadie Byrne. Elle est lieutenant de police, déterminée, tenace, etc. Et elle se met dans la peau du personnage qu'il faut pour atteindre un suspect. Donc, à un moment donné, on la voit ranger sa vie dans des cartons, c'est-à-dire qu'elle change de nom, d'aspect physique, etc. Et elle redevient quelqu'un d'autre. Et donc là, clairement, on lui demande d'être l'appât pour un serial killer. Et elle rentre dans les noirceurs les plus profondes de ce personnage. Et c'est absolument bouleversant de voir à quel point ce personnage féminin qui est au milieu d'un univers d'hommes, qui est dans un commissariat où la première affaire qu'on voit au tout début du premier épisode est réglée en partie grâce à elle. Ils ont mis 18 mois pour la régler. Et à l'arrivée, c'est pas elle qu'on remercie, c'est son supérieur hiérarchique. Et donc, tout ça m'a passionnée. Je trouve que l'actrice Nia Malgar, qu'on avait également vue dans Mother, Father Son, est vraiment exceptionnelle et qu'elle porte quelque chose de très blessé et en même temps de très fort, que je trouve très réussi dans la série. Et je suis un peu troublée par des choses qui font... Enfin, c'est une histoire vraie. Je pense que ça parle aux Anglais différemment qu'à nous. Nous, on ne connaît pas cette histoire, donc on ne sait pas comment elle s'est terminée. Et je pense qu'il faut absolument pas éventer la fin, qui est très étrange pour nous, je pense. Mais tout ce que ça dit sur cette femme au travail, sur le rapport de la police à jusqu'où on va, c'est très très fort.
Ariane, désolé, on manque un petit peu de temps.
Oui, je vais aller très vite. Moi, je suis assez d'accord avec Isabelle. Enfin, juste préciser quand même que ce que ça raconte, c'est une des opérations les plus catastrophiques quand même qui ait jamais faite la police anglaise, et c'est pour ça que ça a eu une résonance aussi forte à l'époque. Ça se passe dans les années 90, donc c'est à la fois loin et près. Moi, je dirais juste une chose, ça m'a intéressée en fait pour ce que ça montre, ce que ça raconte de la vision des femmes dans un monde d'hommes, parce que c'est ça que ça raconte. Alors évidemment, ça adopte le point de vue du personnage féminin. un peu beaucoup d'ailleurs, un peu exclusivement. Je trouve que ça nuit un peu à la dramaturgie parce que c'est vrai qu'on est quand même très concentré sur elle. Heureusement que c'est l'actrice irlandaise qui est formidable, qui porte ça sur ses épaules. Et je trouve que les personnages autour d'elle sont un peu effacés, un peu en retrait, un peu écrasés malgré tout. Et l'autre petite réserve que j'ai aussi, c'est que comme c'est vraiment une série qui veut dénoncer quelque chose, c'est-à-dire une faillite absolue, je vais pas donner non plus la fin, et on est vraiment dans la noirceur du début jusqu'à la fin, il y a quand même une toute petite complaisance sur le glauque et le sordide, moi qui m'a un petit peu gênée. Mais néanmoins, ça reste une série solide, de bonne qualité, très anglaise aussi pour ces qualités-là.
Benoît, il vous reste une petite minute pour conclure.
Oui, mais je suis totalement d'accord avec ce que je viens d'entendre. J'ai été happé vraiment par cette histoire et par cette capacité avec ce personnage féminin de vous embarquer. Moi, ça m'a fait penser un petit peu, puisque ça se passe en plus dans les années 90, ça m'a fait penser à Prime Suspect.
La grande série avec
Hélène Mirren. Qui est cette femme dans un milieu d'hommes dans la police? Sauf que là, et c'est là où c'est très intéressant, et on le voit assez peu, cette façon dont la série se détaille avec beaucoup de précision, Isabelle, tu l'as dit très justement, la façon dont on se prépare à être une légende. Enfin, comment on prépare sa légende. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment réussi. Je trouve qu'en réalité, il nous manque, et je dirai pas plus loin parce qu'on peut pas dévoiler la fin, mais il manque en fait deux épisodes, je pense, il y en a que quatre. Je pense que s'il y en avait eu six, ça nous aurait permis d'avoir peut-être le traitement notamment judiciaire, parce que là on a l'enquête, mais le traitement judiciaire qui est un peu expédié à la fin, et qui aurait mérité peut-être de nous faire rentrer avec autant de précision dans l'humanité des personnages au moment du procès. Voilà, c'est tout. Petite remarque, c'est tout.
Quelques réserves, mais néanmoins un enthousiasme commun, j'allais dire, et partagé pour L'Imposture que vous pouvez voir sur Canal+.
I would give my life for this. If the bullet was the beat, I would probably die for this. How many times did I cry for this? I would hate myself if I didn't at least try for this. What's at stake is bigger than me. Blood, tears, how it stains, can't rid it with ease. What we have in common is our pain. We're given the keys to unlock what it takes to fight for what we believe in. Hard to confront the truth with what you see in the mirror. Some people you inspire and others you trigger. Fighting a blind faith led by the internal voice. You might not wanna do it, but you don't have a choice. Will the pressure take me to new heights or be my demise? Will my intentions coincide with what I advise? The people looking up to me doing everything right. But who am I to tell anyone how to live their life? Your pain threshold will determine if you survive. I'm amazed by it. Lying to myself, pretending I was never fazed by it. Maybe 'cause you're in my DNA, that's why. Sometimes, always, but right now, you made the promise to God to be there for your kids. You made a promise to give them a life you didn't live. My ego won't fully allow me to say that I miss you. A woman who hasn't confronted all her daddy issues. The day will come when you gotta find all the answers to your sins. Pressures are provided, feeling unhappy within. Or what kind of external family shit up on your plate. But I understand wanting and needing an escape. Too much I said, now the silence giving me headaches. Only through speech can we let go of all this dead weight. Even though I'm angry, don't wanna be disrespectful. Trying to figure out how to approach this in the best way. Hard to not carry these feelings even on my best days. Never thought my parents would give me my first heartbreak. Anxiety giving me irregular heart rate. Used to avoid getting into how I really feel about this. Now I see how fickle life can be and so it can't wait. Should have been the person there to hold me on my dark days. It's easier to stargaze. I wish then be faced with this reality. Is you a sperm donor or a dad to me and still? Mission you live and learn. The world don't show you no mercy from birth. How do you humanize your hero? Grounded, you're only respected if earned. Half-hearted stories can't let your guard down. To get to Nirvana, where do you start out? Angry
because they don't meet your unrealistic standards. Then you realize that they're human and you calm down. Sometimes I'm unbalanced and I think, raw, why am I losing my steps? Lately I'm paranoid, I feel my life is a mess. I'm just using my voice, hope it will have an effect. He was just once a boy, often I seem to forget. Looking at Polaroids, a picture secretly kept. You know what was destroyed, but you don't know what was left. Trying to phase out the noise of all you hear in your head. Everything is a choice and anything can be said. Is you missing the point? Are you just hearing me vent? Or is you in understanding, knowing my words will connect? I keep you in my prayers, cause life is short as we know. Every mistake you make should contribute to your growth. What you choose to avoid will probably come in your dreams. I'm not forgiven for you, man, I'm forgiven for me. And sometimes, 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 always.
I love you, I hate you par Little Sims. Après une intro cuivrée et lyrique qui n'est pas sans faire penser au générique des films de James Bond, la londonienne aux origines nigériennes revendiquée brille sa mélodie d'une mélopée scandée monologue dédiée à ce père avec lequel elle dit n'avoir pas encore tout réglé. Je t'aime, je te hais. Un pur concentré de rage contenue qui résume si bien nos rapports parfois difficiles avec nos parents. Little Sims sera en concert le 28 janvier 2022 au Bataclan.
France Inter, une heure en série.
Un plateau télé un peu particulier ce soir parce que nous allons évoquer le phénomène de cette rentrée, la série The Squid Game, le jeu du calamar en Québec. Moi j'aime bien, je préfère ça, je trouve que ça a plus de gueule quand même, voilà. Série de 9 épisodes, on va parvenir, c'est un phénomène. Netflix nous jure que c'est les plus grands chiffres de diffusion et de visionnement jamais atteints. Bon, ça avec eux, on sait jamais de toute façon quelle est la réalité de la chose. En tout cas, nos éditeurs ne l'aiment pas beaucoup. J'ai surtout reçu des courriers dénonçant la série. Je vais quand même vous citer celui de Thomas qui est extrêmement bien écrit. Cette série m'a profondément écœuré. Ce n'est ni la violence graphique qui m'a posé problème, ni le thème finalement archi rebattu des chats du Kontzarov à Hunger Games du jeu de survie. Mais si vous additionnez petit a un dispositif qui vous kidnappe très efficacement en nous mettant dans une position voyeuriste et haletante, petit b un détournement du questionnement moral de la responsabilité des bourreaux, questionnement qui devrait être le seul à se poser, petit c un épisode 2 dégueulasse qui permet au reste de la série de rendre les victimes consentantes, enfin je suis entièrement d'accord, petit d une orgie de plans immondes sur les fours crématoires, et petit c'est une musique conspirationniste auquel vous ajoutez petit f une esthétique sociopathe gratuite, eh bien on sent bien que quelque chose cloche. Qui veut jouer au calamar? Ariane.
Alors déjà, moi j'ai pas compris les règles du jeu du calamar, donc je dois être encore plus stupide quand même que les personnages.
Parce il y a un triangle, il y a un carré,
oui,
et il y a un cercle.
Après voilà. On comprend pas pourquoi il enfin bon, peu importe. Moi j'ai trouvé ça. Non mais je trouve surtout que les personnages sont quand même tous à moitié débiles. Donc déjà je trouve que le regard sur ces personnages, déjà je le trouve un peu condescendant, un peu difficile. Il y a une chose qui m'a gênée beaucoup aussi, c'est la théâtralité de l'ensemble, c'est-à-dire non seulement la théâtralité de la mise en scène, mais le jeu des comédiens aussi, je le trouve très outré, très boursouflé. Il y a un des personnages, c'est une femme d'ailleurs, parce qu'en plus les personnages sont très genrés hein, quand même, c'est-à-dire qu'il y a évidemment le mâle alpha et évidemment la guicheuse et qui trahit tout le monde et à commencer par elle-même d'ailleurs. Elle, je la trouve insupportable du début jusqu'à la fin. Heureusement qu'à un moment donné, ils la font disparaître, ce qui est horrible, parce que du coup, ça crée nous-mêmes des sentiments par rapport à la narration et au récit qui sont assez ambivalents, je trouve. Et voilà. Et finalement, je trouve que même si ça se veut être une allégorie contre le capitalisme, parce que c'est ça hein, quand même, donc on pourrait éventuellement partager hein, cette violence-là. Finalement, ça nous raconte en sous-texte quand même, ça nous fait un éloge par exemple de la famille comme une valeur refuge, que moi je trouve quand même très conservateur. Donc voilà, c'est une série que j'ai regardée quand même quasiment jusqu'au bout. Il me manque la fin du dernier épisode, et je sais pas si finalement j'irai jusqu'au bout.
J'ai oublié de résumer quand même en deux mots le jeu du calamar. Donc ça se passe en Corée, un groupe de 456 citoyens, j'y arrive, plus ou moins consentants, participent à des jeux dans lesquels l'élimination signifie la mort.
C'est un jeu de massacre.
Benoît Lagane.
Alors moi j'ai vraiment pas du tout aimé, je suis assez d'accord, je pourrais cocher tout ce qu'a dit l'auditeur, Thomas, c'est ça? Je trouve qu'il le dit très très bien, le côté voyeuriste de cette opération m'a particulièrement gêné. Ensuite, j'arrive à comprendre pourquoi en fait ça marche autant, parce qu'en fait c'est vraiment de la série putassière à clic, c'est-à-dire que c'est la série qui coche tout ce qui fonctionne partout. On retrouve ce plaisir de retrouver un jeu, donc où on va se demander ce qui va se passer à chaque épisode, comme dans un jeu comme dans Koh-Lanta, sauf que c'est hyper macabre et que c'est humiliant. Ça rappelle tous ces jeux télé dont Takeshi Kitano, par exemple au Japon, se veut un fou dingue de ces jeux.
Parmi les nombreuses influences, il y a Battle Royale, bien évidemment.
Donc il y a tout ça. On pense bien évidemment à la Casa des Papels, dans la façon dont visuellement c'est fait. Ça reprend tous les codes du manga. Et moi, je trouve qu'en réalité, le manga, quand c'est dessiné, ça passe. Quand c'est
incarné,
ça ne passe plus. Et c'est pour ça que moi, ça m'a vraiment gêné, mis à part l'ultra-violence de toute façon, qui est quand même fini par être détestable.
Le mot de la fin pour Isabelle Danel, à propos de Squid Game.
C'est l'ultra-violence qui est détestable, effectivement, là-dedans. C'est-à-dire que dans un décor rose-vert-bleu, avec des très jolies choses, un grand personnage pour jouer à 1, 2, 3 soleils, etc. Un quartier refait pour jouer au billes, etc. Donc une espèce de déréalisation ludique, presque enfantine, etc. On se retrouve dans une violence montrée de façon putassière, tu l'as dit Benoît, avec des ralentis, avec du sang qui gicle, et c'est absolument insupportable. Et moi, je comprends pas pourquoi ça marche, parce qu'il y a un vrai décalage, je trouve, il semble que ce soit des gens très jeunes qui soient complètement fans de ça, et là, j'ai du mal à comprendre.
Oui, je crois qu'on est tous d'accord, et puis quand même, ça emprunte à des séries qu'on connaît par cœur. Il y a Le Gaz du Prisonnier, Les Jeux de l'Enfance, c'est un épisode de Chapeau Melon, donc en plus, rien de nouveau sous le soleil. Bon, voilà, c'était The Squid Game, et c'est également la fin d'une heure en série. C'est un moment où il nous faut nous quitter. C'est un regret, bien évidemment, que je vous remercie et vous salue, chère Isabelle Danel, chère Ariane Alla et cher Benoît. Merci d'avoir été des nôtres ce soir.
Merci
à vous toutes et à vous tous, auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés. Petit rappel des faits, nous avons recommandé ou pas ce soir Germinal sur France 2, L'Imposture sur Canal+, ou Y, The Last Man, Le Dernier Homme sur Disney+. La semaine prochaine, nous évoquerons La Maison de la Rue en Pente sur Arte, Impeachment sur Canal+, et H24 sur Arte, dont nous sommes partenaires à France Inter. Demain soir à 20h, Un Masque et la Plume consacré à l'actualité du 7e art. Une heure en série, une émission à réécouter en podcast. Il y a un site internet, vous pouvez trouver le détail de la programmation, nous envoyer des courriers, il y a un compte Instagram. Je vais remercier évidemment celles sans lesquelles l'émission ne serait rien, c'est-à-dire d'abord Marie-Annick Rimbaud à la réalisation, excellente Marie-Annick. La programmation musicale, Valentine Chedbois. J'ai préparé cette émission avec Amel Kaldi, et c'est un peu comme dans The Y Last Man, il y avait un homme ce soir en régie, et c'était Antoine Taboul.